Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Cette semaine, dans notre interview, on va parler un petit peu paix, politique, justice, des sujets qui font peut-être un petit peu peur, mais que vous allez nous aider à désamorcer justement. On va commencer par la paix, c'est quand même le thème de la semaine important, puisqu'un protocole de paix a été signé entre les États-Unis et l'Iran. Alors ce n'est qu'un protocole de paix, mais on a quand même déjà l'impression que finalement ce sont les puissants de ce monde qui, en un claquement de doigts, quand ils l'ont décidé, parce que peut-être ils sont prêts, eux, hop, ils peuvent décider de la paix comme ils ont comme ça aussi décidé de la guerre. Qu'est-ce qu'on doit en penser de cette paix-là? Est-ce qu'on doit se réjouir de ce mode de paix-là qui nous donne quand même l'impression que les motivations, elles sont plus stratégiques que portées par le souci des peuples, au fond?
Chaque fois que les bombes s'arrêtent, évidemment, on ne peut que se réjouir. Ensuite, il faut évidemment creuser les choses plus profondément. Et quand on est chrétien, on sait bien que les racines de la paix, c'est pas simplement la peur de l'autre qui fait que je me tiens quoi, mais c'est beaucoup plus profond que cela pour qu'elle soit vraie et durable. La paix, la véritable paix telle que nous la comprenons, consiste à pouvoir se donner la paix comme on le fait avant la communion, pendant la messe, ou comme on devrait le faire, c'est-à-dire que ce soit un geste de vraie fraternité. On a des images de la réconciliation franco-allemande. Ma génération se souvient d'une photo bouleversante du président Mitterrand et du chancelier Kohl, main dans la main, à Verdun. Voilà, la paix véritable, c'est celle-là. Je n'imagine pas le président américain et le président iranien en être là encore. Or, pour l'instant, c'est « je t'ai fait beaucoup de mal, tu m'as fait beaucoup de mal, décidons d'une trêve ou d'une halte parce que on va y laisser des plumes et l'un et l'autre ». Mais les raisons de cette paix-là, même si le fait que les armes s'arrêtent de parler ne peut que nous réjouir, évidemment, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et quand on est chrétien, on sait que la source de la paix, elle s'origine en Dieu et dans le changement des regards et des cœurs que les uns et les autres portent sur les autres et les uns. Et c'est cela seulement qui fonde la paix véritable.
Quand il n'y a pas de stratégie derrière ou d'ambition politique, économique, personnelle ou pour un pays, ça, ce serait la vraie paix.
Alors ça, ce que vous pointez, ce sont les raisons de la guerre, souvent. La vraie paix, elle s'origine dans la charité. Et la charité, elle vient de Dieu. Et donc, le regard que l'on porte les uns sur les autres.
Alors, on va parler aussi justice, si vous voulez bien, Monseigneur, avec cette affaire vraiment affreuse de la jeune Liana, hein, c'est tout près de chez nous, dans le Gers. On voit une mobilisation de toute la société qui s'insurge contre le fonctionnement, ou plutôt les dysfonctionnements de la justice. Alors, on a soif de justice, ça c'est certainement une bonne chose. Mais pour nous, chrétiens, évidemment, on a tendance à penser que et à croire que la vraie justice, elle ne réside qu'en Dieu. Cela dit, certains chrétiens se mobilisent aussi, font partie de ces manifestations qu'on voit depuis l'affaire Liana devant les tribunaux le lundi soir. Est-ce qu'on a raison en tant que chrétien de prendre part à ce combat-là pour cette justice-là, cette justice civile? Et qu'est-ce que vous, en tant qu'évêque, vous attendez de la justice? Qu'est-ce qu'elle devrait être, cette justice sur Terre?
Alors voilà encore un mot qui est à plusieurs... Enfin, qu'il y a plusieurs acceptions, plusieurs manières de le comprendre. Et voilà. Dans le contexte de l'émotion immense que suscite cette affaire, bien triste, eh bien, il est compliqué de raisonner raisonnablement, j'ai envie de dire. Et c'est bien compréhensible. Qu'il y ait de l'émotion, qu'il y ait de la colère, qu'il y ait de l'incompréhension et que cela s'exprime, c'est tout à fait compréhensible. Après, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour le sujet de la paix, au sujet de la paix, il faut se poser et prendre les choses dans un ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que la justice? selon Dieu, pour nous, être juste, c'est être accordé à Dieu, au regard de Dieu, à la manière dont Dieu confie la création à l'homme, en vue de son déploiement un jour au ciel, quoi. Bon. Donc tout ce qui est juste sur terre, c'est ce qui vient s'inscrire dans cette dynamique, dans cette histoire qui se déploie. Alors, on peut entrer dans le détail le plus concret des relations humaines, des relations adultes-enfants, des relations hommes-femmes, des relations entre les peuples. On va retrouver la question de la paix et des fondements et des fondations profondes de ce qui permet la paix. La justice, c'est du même ordre. C'est être ajusté à Dieu et être ajusté au cœur de Dieu. Alors, les lois humaines servent ce projet. Elles font passer l'intérêt commun avant les intérêts particuliers. La loi, la Torah, dans la Bible, elle est au service de cette construction-là. Le bien du peuple passe avant le bien des individus à l'intérieur du peuple, parce que le bien des individus à l'intérieur du peuple découle du bien général du peuple, et que le bien de la communauté dans son ensemble n'est pas l'addition des biens individuels, parce qu'on voit bien que livrés à eux-mêmes, les êtres humains ont des conceptions de la justice, de la paix, du bonheur, de leurs intérêts qui sont bien contradictoires et bien parfois opposés. Donc il y a une norme qui transcende et au-dessus des intérêts ou des points de vue individuels. Et tout cela, progressivement, dans l'histoire de l'humanité, est codifié dans des lois, dans des codes, dans des règles qui sont censées servir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est bien, et qui se réfèrent à des normes transcendantales, en quelque sorte, des normes supérieures aux intérêts particuliers. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, très inspirée évidemment par la foi chrétienne, mais qui ne se déclare pas comme étant chrétienne à proprement parler, mais universelle, Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, a cette ambition de servir la justice, précisément. Et c'est une loi qui est au-dessus, au-dessus des intérêts particuliers. Bon. Alors, ensuite, pour faire fonctionner la loi, il faut des gens pour l'enseigner, pour que les citoyens l'intègrent comme étant un bien et un vrai bien. Et il n'est pas besoin de gendarmes en permanence pour la respecter, mais ils la respectent parce qu'ils ont intégré qu'en effet, c'est ça qui est bien. Bon. Donc il faut des éducateurs, il faut de la formation, il faut une société qui l'enseigne par porosité en quelque sorte. Or, on voit bien que c'est extrêmement complexe, compliqué, que ça fonctionne pas bien au niveau des systèmes éducatifs, au niveau que ce soit en famille, les parents, que ce soit les écoles, etc. etc. Bon, donc il y a à travailler de ce côté-là. Ensuite, il faut la faire respecter. Alors pour ça, il y a les gendarmes, il y a les juges, il y a les tribunaux. Bon, et tout cela demande des moyens. Et donc, c'est bien d'exprimer sa colère et son émotion, mais est-ce qu'on est prêt aussi à donner à notre société les moyens de faire fonctionner l'éducation, de faire fonctionner la justice? Ça veut dire peut-être payer un peu plus d'impôts pour que tout cela fonctionne, peut-être travailler à être moins en guerre pour que les millions et les milliards qui sont consacrés à se protéger par des armes soient consacrés à éduquer et à faire que la justice ait les moyens de son fonctionnement normal. C'est toute une question de société extrêmement profonde et il n'y a pas de réponse simpliste à la question que vous posez.
Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'on n'en serait pas là, les choses seraient peut-être différentes ou seraient plus simples à corriger si Dieu avait encore sa place dans notre culture?
Ah ben ça, j'en suis profondément convaincu de manière habituelle. Plus Dieu recule dans le champ conscient des personnes et des sociétés, plus la loi de la jungle prend le dessus, et c'est la loi du plus fort, et c'est chacun pour soi, etc. C'est les émotions, et c'est le chaos. Voilà, ça j'en suis profondément convaincu de manière habituelle.
Qu'est-ce que nous chrétiens concrètement on peut faire quand on a la foi dans le cœur? Ça suffit pas toujours pour faire bouger les choses?
Mais si, justement. Si, justement, je le crois profondément. C'est déjà nous-mêmes essayer de faire tout notre possible pour être en cohérence avec ce que nous croyons, ce que nous ambitionnons pour nous et pour le monde et pour la société. Donc déjà être cohérent nous-mêmes dans nos relations humaines, dans la manière de refuser la violence, dans la manière d'être juste nous-mêmes. Et voilà, déjà à notre petite échelle, quoi. et ensuite de montrer que une communauté qui se construit sur ces principes, elle fait envie, et donc de donner envie à d'autres d'ambitionner la même ambition et donc de changer de mœurs, de façon de penser, de façon de vivre les relations humaines et les rapports de force entre les humains. Voilà. Et ça commence vraiment très très petitement dans nos propres manières d'être, entre nous, en communauté, en famille, au travail, enfin c'est tout simple, tout simple, tout simple. Et il faut croire que chaque personne qui pose un acte qui est juste aux yeux de Dieu est un prophète de la justice de Dieu pour l'humanité tout entière.
Alors ma dernière question, elle est assez liée à cette notion de justice dont on vient de parler. C'est une question plus politique, mais on voit aussi depuis quelques jours ou quelques semaines la multiplication des points de tension dans notre pays sur des sujets de société, sur des sujets politiques, sur les questions d'immigration. Cette semaine, l'évêque de Castres a publié une lettre au sujet d'une pièce de théâtre sur le thème des migrants. On a vu aussi cette histoire à Perpignan d'une élue qui faisait un salut nazi. Enfin, on pourrait en citer des dizaines d'exemples comme ça, de faits comme ça qui pourraient passer inaperçus, mais quand même, quand on voit où est-ce qu'on en est à encore presque un an des élections présidentielles, on peut se demander à quelle sauce on va être mangé dans quelques mois, quand on sera en plein dans la campagne électorale, quand on sera en plein dans la période des élections présidentielles. Tout ça, c'est un petit peu affolant quand même quand on voit ces tensions. Là encore, quel rôle nous, on peut jouer en tant que chrétiens? Qu'est-ce qu'il est juste d'adopter comme position? Est-ce que ce n'est pas un petit peu aussi pour ça et dans ce contexte-là que le pape Léon XIV fait une halte à Metz, qui est quand même un lieu symbolique sur toutes ces questions de société, de politique et d'immigration?
Bon, je pense pas que, dans le programme du pape prévu au mois de septembre, la décision ou la proposition d'aller à Metz ait été inspirée par un contexte politique particulier. C'est la patrie de Robert Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, et donc venant en France, qui est une nation fondatrice de l'Europe, c'est quelque chose qui marque l'identité de notre pays et son rôle dans l'histoire. Dans l'histoire contemporaine, eh bien, c'est une manière d'honorer cette dimension-là. Il n'y a pas d'intention politicienne, en tout cas.
Il n'y a pas un message sur l'immigration, par exemple?
Alors, on verra bien ce qu'il a envie de nous dire. Hein. Déjà, il a pris la parole sur ces sujets récemment en Espagne. Donc, on verra s'il ne va pas se répéter à l'infini ou s'il dit autre chose. Enfin, on verra bien, ça, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, dans la proposition d'aller à Metz, ce n'est pas une intention politicienne particulière et partisane franco-française qu'il y a derrière. Après, voilà. Il parlera de l'Europe, ça c'est sûr, il parlera de la paix en Europe et des racines de cette paix, un peu dans l'esprit peut-être de ce que je disais tout à l'heure. Bon. En tout cas, votre question, elle est redoutable, parce qu'elle dépeint un tableau qui est redoutable. En effet, on voit bien, on a bien vu à l'occasion des élections municipales récentes, et puis des tensions qui traversent notre société et la difficulté qu'il y a à avoir un débat démocratique, raisonnable, posé, mesuré, où des idées, des visions de la société, du vivre ensemble sont confrontées. Et après tout, personne, j'aime dire ça, n'est totalement intelligent à soi seul, et on a besoin de cette émulation par le débat, par le dialogue, par la confrontation des idées. Bon. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Il y a une émotion absolument terrible, exacerbée. Il y a des partis pris, je dirais, idéologiques absolument exacerbés. Ces styles, réseaux sociaux, mais en direct, en présentiel, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas, on s'insulte, et puis on envoie l'autre aux enfers et on rêve de le décapiter ou de le mitrailler si on en avait les outils immédiatement sous la main. Et voilà. Bon, il faut que nous, chrétiens, on donne l'exemple qu'il y a d'autres façons de procéder, déjà en allant dans la parole de Dieu, dans la prière, dans notre foi, puiser les fondamentaux de ce qu'il convient d'espérer pour notre société, pour nous-mêmes, pour notre monde. Donc d'avoir un esprit critique par rapport à tout ce qui nous est dit, proposé, etc., pour pouvoir, nous, nous laisser inspirer, non pas par des propos divers et variés et qui flattent tel ou tel sentiment, mais d'aller puiser notre inspiration profonde dans la parole de Dieu, et dans la foi et dans la prière. Bon, ça c'est un premier devoir, d'abord. Ensuite, d'établir entre nous, comme je le disais déjà tout à l'heure, des manières de débattre, de parler, de réfléchir ensemble, qui ne soient pas à l'image de ce que l'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux ou dans les médias, quand on entend le président américain invectiver tel ou tel ou tel autre chef d'État. Bon, on parle du président américain parce qu'il fait la une ces temps-ci, mais il n'est pas le seul, hélas, comme bien d'autres. Enfin, voilà. Donc, nous, être témoins d'une autre façon d'être en relation les uns avec les autres. Et j'aime dire que la palabre africaine est sans doute un modèle préférable à nos modèles démocratiques qui consiste chaque fois à donner le sentiment qu'il y a un gagnant à 100% et un perdant à 100%, jusqu'à ce que la fois d'après, élection suivante, on prenne le camp perdant prenne sa revanche, ou espère pouvoir prendre sa revanche. Et tout ça dans un climat de grande violence et de non-écoute de l'autre. La palabre africaine, dans ce qu'elle a de symbolique, c'est que les deux points de vue s'affrontent, discutent, jusqu'à ce que, finalement, ensemble, ils construisent un troisième point de vue qui va plaire aux deux. Et donc, qui n'existait pas au départ, mais qui naît de cette confrontation. Et dans l'Église, c'est plutôt ça, le modèle, vous voyez. Un concile, un synode, il faut que, quand on passe au vote sur une proposition, il y ait 2/3 des voix pour que la proposition soit adoptée. 2/3 des voix, ça veut dire que ce qui a été élaboré va plaire finalement à tout le monde. Et c'est ça, cela qu'il faut viser, et on a à être témoin d'autres manières de débattre en société et de construire nos projets de vie ensemble.
Bah écoutez, tout ça est passionnant et il faudra qu'on en reparle. Il y aura aussi derrière tout ça cette question de la conviction politique. C'est sans doute bien d'avoir des convictions, mais comment on ne tombe pas dans l'idéologie? On pourra en reparler de toute façon les mois qui viennent.
Oui, le fond, c'est il faut rendre à César ce qui est à César. Quoique chrétien, on est aussi des citoyens. Et donc, il faut qu'on prenne notre place dans l'organisation de la société, quelquefois en acceptant que, ma foi, tout n'est pas parfait, du premier coup, etc. Et donc, accepter de se salir les mains, en quelque sorte, ou de se mouiller, enfin, de prendre notre part dans cette construction, mais de le faire de manière chrétienne, profondément. Et ça se nourrit dans la prière et l'accueil de la parole de Dieu en nous, et l'invocation de l'Esprit-Saint, souvent.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. À la semaine prochaine.
Avec plaisir. Bonne semaine.